Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Le hasard fait bien les choses, ou encore il n'y a pas de hasard. Finalement, question, qu'est-ce que le hasard ? Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons nous poser cette grande question. Qu'est-ce qu'une coïncidence? Qu'est-ce que les coïncidences? Le hasard, qu'est-ce que c'est? Gérald Bronner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à la Sorbonne et vous co-dirigez le Centre d'études sociologiques de la Sorbonne et vous venez de publier un ouvrage extrêmement intéressant, très facile d'accès, simple à lire, rempli d'exemples de coïncidences et évidemment d'explications qui vont avec. Ça s'intitule donc « Coïncidences, nos représentations du hasard » et c'est paru aux éditions Vuibert. À signaler, parce que j'adore tout ce qui est bande dessinée ou illustrateur, que les illustrations de Rhys ou de Tinius, par exemple, entre autres, viennent égayer ce livre avec de très jolies illustrations. Alors, Gérald Bronner, une petite question comme ça, rapidement, avant d'entrer avec vous dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas du genre, semble-t-il, à aller consulter un voyant ou une voyante, et encore moins à vous faire faire votre thème astral, j'imagine.
Bah, écoutez, je dirais aujourd'hui non, mais vous savez, on change. Et j'ai été moi-même adolescent, et vous savez que l'adolescence est une période propice à l'apparition de toutes sortes de croyances, de superstitions. Donc je me souviens, ayant été adolescent, que j'ai cru à toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je dirais que mon esprit a changé, mais du moins je puise dans le fait que j'ai été moi-même en quelque sorte un croyant, un certain nombre d'exemples. Je suis mon premier laboratoire, vous savez, donc je n'ai aucun en fait mépris, ni même je n'ai pas de sarcasme à l'encontre de ceux qui constituent les exemples, disons, que j'étudie.
Alors, je me tourne vers ceux et celles qui nous écoutent pour une prochaine émission. Si vous-même pensez avoir vraiment vécu toute une série de coïncidences extrêmement troublantes, vous m'appelez au 0826 300 300. Ça pourra faire l'objet d'une émission. On recueillera comme ça toute une série de coïncidences, de hasards entre guillemets, que l'on pourra explorer ensemble. Nous allons donc découvrir les coïncidences et le hasard avec mon invité de ce soir, Gérald Bronner.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Gérald Bronner est mon invité dans Les aventuriers de l'étrange ce soir. Il est l'auteur d'un livre tout à fait passionnant qui se lit très simplement. Ça s'intitule Coïncidence, c'est aux éditions Vuibert. Vous avez vraiment voulu, on le sent à travers votre écriture, avoir une vulgarisation dans votre style, vraiment que ce soit accessible par le plus grand nombre. Ça se sent vraiment à travers votre écriture.
Écoutez, je vous remercie. C'est effectivement quelque chose auquel je suis très attentif. Je publie par ailleurs des articles extrêmement pointus, voire des livres, disons, destinés surtout à mes collègues universitaires. Mais je dois dire que je considère comme un de nos devoirs, en tant qu'universitaire et en tant que scientifique, de faire un effort pour parler à des gens, à des esprits curieux, mais qui ne seraient pas forcément spécialistes de certaines questions. Parce que je pense tout simplement que quand on a quelque chose à dire, vraiment, on peut le dire simplement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, effectivement, dans ce livre.
Et ça marche. Donc voilà, ça c'est déjà ça c'est déjà un bon point. Alors en fait, on va commencer par là, Gérald Bronner. Selon vous, la base du problème, c'est de ne pas mélanger notre perception des événements et les probabilités qui les gèrent.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, nous utilisons dans notre vie de tous les jours, intuitivement, des sortes de calculs de probabilité. Par exemple, est-ce que mon interview avec vous va bien se passer? Est-ce que demain il va faire beau, etc. Est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche si je suis chômeur? Enfin, est-ce que je vais plaire à cette fille, etc. Enfin bref, toutes les situations en fait de la vie sociale sont souvent caractérisées par une incertitude. Cette incertitude peut être plus ou moins violente à notre esprit, et pour répondre à ces incertitudes, nous utilisons intuitivement des calculs de probabilité, ce qu'on pourrait appeler des probabilités subjectives. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne sommes pas non plus, pour la plupart d'entre nous, des mathématiciens. Ouais. Et nous nous trompons souvent, c'est ce qui constitue le sujet du livre. Pourquoi nous trompons-nous si souvent lorsque nous utilisons les probabilités, et surtout, à quel genre de croyances saugrenues nos erreurs de calcul, si je puis dire, nous conduisent. Et en particulier, évidemment, les coïncidences, c'est le sujet typique où on a l'impression que quelque chose est totalement extraordinaire, et ben parce que nous nous trompons un peu dans nos calculs.
Alors, les coïncidences, c'est du type « j'ai pensé à quelqu'un » et finalement, il appelle dans la minute qui suit. Vous allez un petit peu plus loin en nous parlant, on en parlera évidemment dans le courant de cette interview de la loi des séries, des miracles de Lourdes. C'est un sujet d'actualité puisque Lourdes fête actuellement les 150 ans de la première apparition de la Vierge, donc en 1858. C'était un 11 février, début de cette semaine. Plus intéressant et d'une certaine manière peut-être un peu plus inquiétant, on verra aussi avec vous que des scientifiques parlent de dessin intelligent. Ça peut aller jusqu'à remettre en cause la théorie de l'évolution, Darwin contre Dieu d'ailleurs, c'est une partie de votre livre. On parlera d'Uri Geller, de la psychokinèse, de la télépathie, etc. Mais pour commencer, et là c'est vraiment une question qui peut paraître simple mais dont la réponse peut être compliquée, vous en sortez très bien dans votre livre, comment peut-on définir le hasard? Parce que tout est là finalement.
Le hasard, il est évidemment très difficile de le définir. On ne peut, dans le fond, enfin, il y a la définition classique qui dit que le hasard, c'est la rencontre de deux chaînes de causalité indépendantes, mais ça ne va pas beaucoup parler forcément à vos auditeurs. Je dirais que le hasard, surtout, peut être défini de façon négative. C'est-à-dire, on peut dire ce que n'est pas le hasard.
Ouais.
Alors, ce que n'est pas le hasard, déjà, c'est un ensemble de faits produits avec une intention. Il n'y a jamais d'intention dans le hasard, il n'y a jamais de volonté cachée derrière. Je dirais que le hasard est aveugle. Et c'est ce que n'arrive pas à percevoir l'esprit humain, parce que nous sommes dans le fond des animaux cognitifs, c'est-à-dire des individus qui cherchons un sens au monde. Mmh. Et je dois dire que parce que nous cherchons sans cesse un sens au monde, et parce que ce sens nous permet de négocier avec le monde, d'espérer d'obtenir de lui ses bienfaits, et puis éventuellement de fuir ses méfaits, eh bien nous souscrivons assez difficilement à l'idée que le monde pourrait tout simplement produire le fruit du hasard. C'est-à-dire, je dirais que le hasard est l'hôte indésirable de la pensée humaine. C'est ce qui fait que nous avons des rapports extrêmement difficiles avec lui.
Mmh. Mais est-ce que ça veut dire, à vous entendre, que à ce moment-là, il faut être absolument athée, ne pas croire en une intelligence supérieure?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais d'abord que c'est pas une question scientifique. donc, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas si l'univers a un sens, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, etc. Et je trouve qu'un scientifique qui répond à cette question trompe, je dirais, son public, parce qu'il n'a pas de compétences. Le scientifique ne répond pas à la question pourquoi, la plupart du temps, il répond à la question comment.
Mm-hmm.
Donc moi, je réponds au comment de la croyance, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'existe pas un Dieu ou que le monde n'a pas un sens, etc. Ça, c'est mes convictions personnelles, à la limite, dont je n'ai pas à faire état publiquement. Par contre, ce que je peux dire publiquement, c'est qu'un certain nombre de nos croyances nous conduisent à ce genre d'adhésion avec de fausses bonnes raisons, si je puis dire. Et c'est le mécanisme de ces fausses bonnes raisons qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que les gens sont sincères en croyant, par exemple, que tel événement est absolument extraordinaire et qu'il ne peut donc pas être le fruit du hasard, que, par exemple, les phénomènes de la nature est trop bien faite et donc il y a forcément une intention cachée derrière la nature, pourquoi pas celle d'un dieu, etc., etc. J'ai retrouvé, à travers des exemples extrêmement disparates dont nous allons parler, des mécanismes, ils sont pas si nombreux, qui sont communs. Et j'ai fait là, du coup, mon travail de sociologue des croyances.
Mmh. Alors, vous citez, pour commencer, cette célèbre anecdote de ce grand psychanalyste Jung, qui écoutait le rêve d'une patiente. Je vous laisse le soin de nous raconter cette anecdote.
Oui, bah, une patiente, c'est Jung qui le raconte. Personne n'est là pour vérifier la réalité de cette anecdote. Elle est un peu spectaculaire, mais pourquoi pas. Jung raconte qu'il est comme ça, effectivement, en analyse avec une patiente qui fait des rêves récurrents de scarabées d'or. Et tout à coup, dans une scène un peu d'abréaction, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire le moment où la patiente, comme ça, revit émotionnellement très fortement un traumatisme, ce rêve, quelque chose, un insecte vient frapper la vitre du cabinet de psychanalyse de Jung, et Jung ouvre la fenêtre et triomphale, attrape l'insecte et exhibe un scarabée d'or et dit « Voilà votre scarabée d'or ». Donc en fait, la grande théorie de Jung, si vous voulez, c'est que notre inconscient aurait accès par le biais de ce qu'il appelle l'inconscient collectif, à toutes sortes de symboles partagés par les rêves, par la folie, par les névroses. Et en fait, lorsque nous serions atteints d'une névrose, ou voire d'une psychose dans certains cas, ou lorsque nous rêvons, nous ne ferions rien d'autre que manifester des grandes lois de l'univers. Et ces lois de l'univers ne seraient pas du tout le produit du hasard, puisque selon lui, tout serait dicté par la synchronicité, c'est-à-dire le fait que des événements surviennent en même temps et que ces événements qui surviennent en même temps soient signifiants. C'est-à-dire que cela dit quelque chose du mystère du monde et de notre âme, par exemple de nos maladies mentales, etc.
C'est-à-dire qu'ils ont un sens.
Tout cela a un sens, voilà. Ouais. C'est une façon de ne pas reconnaître l'existence du hasard, évidemment. Hein, encore une fois, le hasard, c'est la manifestation de l'antisens. Ce qui n'a pas de sens. C'est pour ça que le hasard est si mal aimé, si je puis dire, par la conscience humaine. Parce que la conscience humaine, elle veut un sens. Elle ne veut pas que les choses arrivent par hasard. Et donc, le travail de Jung, mais aussi de beaucoup d'autres courants d'idées, comme les surréalistes, par exemple, dont je parle un peu, et de beaucoup d'autres auteurs, c'est d'essayer de faire une sorte de collection de coïncidences et de trouver un sens à ces coïncidences. Le problème, c'est quand on a un peu d'imagination et un peu de détermination, on arrive toujours à trouver un sens à tout. Et le fait de trouver un sens à ces coïncidences ne signifie pas du tout qu'elles en aient, surtout quand en fait on peut démontrer qu'elles ne sont rien d'autre que le produit des probabilités et du hasard.
Alors justement, vous donner un exemple que j'ai trouvé très amusant concernant un petit problème de probabilité. Dans un tiroir, il y a des chaussettes de deux couleurs différentes, des rouges et des bleus, si je me souviens bien, c'est ça, rouge et bleu.
Oui,
non, mais c'est...
Vous pouvez changer les couleurs. Hein,
rouge et bleu, et elles sont mélangées. Donc, quelles sont les chances que l'on a d'avoir deux chaussettes de la même couleur dans le noir, parce qu'on voilà, on tripote dans le truc, dans le tiroir, et on sort une paire de chaussettes. Et c'est extrêmement intéressant et éclairant d'ailleurs.
Oui, absolument, parce que quand on demande le nombre minimum de paires de chaussettes qu'il faut tirer dans ces conditions, au lieu de dire 3, qui est la bonne réponse, parce que si vous tirez une chaussette bleue et puis que la deuxième, vous tirez une chaussette rouge, eh bien la troisième, elle sera soit bleue, soit rouge, et donc vous aurez une chaussette d'une couleur en particulier. La plupart des gens répondent le nombre de chaussettes bleues plus 1, ou le nombre de chaussettes rouges plus 1. Par exemple, s'il y a 20 chaussettes, ils répondent 21. Et c'est si vous voulez, la démonstration que la plupart des gens pensent assez mal le hasard, une démonstration assez facile. Alors un problème un peu plus qui est fondé sur le même type d'erreur, mais qui est un peu plus spectaculaire, est celui dit des anniversaires. On demande à quelqu'un, et d'ailleurs je vous pose la question, combien faut-il de personnes réunies dans une salle pour être à peu près sûr qu'elles aient la même date d'anniversaire, si on prend seulement le jour et le mois, bien entendu, hein, laisse tomber l'année. Et la plupart des gens, évidemment, répondent 182, enfin répondent des chiffres extravagants, alors qu'en réalité, si vous avez une trentaine de personnes dans une salle, vous êtes quasiment certain d'obtenir deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Donc si vous faites une fête chez vous, vous avez une trentaine de personnes, c'est pas excessif, vous aurez probablement deux personnes qui ont la même date et elles vont trouver ça extraordinaire. Elles vont se dire quel drôle de hasard, n'est-ce pas? C'est une coïncidence tout à fait extraordinaire, mais en réalité, c'est pas le cas, c'est simplement un produit attendu du hasard en l'occurrence.
Et on imagine bien, si on est un scénariste et on rédige le dialogue d'une scène comme ça, de la rencontre fortuite de deux personnages dans une fête et qui se disent on a la même date d'anniversaire. Pour eux, ça va avoir un sens. Évidemment, c'est la première analyse qu'ils vont avoir de cet événement.
Absolument. Ils vont se dire que c'est très très improbable, alors que ça ne l'est pas. Ouais. C'est très très improbable. Et ce qui est très improbable est souvent vecteur de sens. Alors, ça peut donner lieu à des suites heureuses. Par exemple, une histoire d'amour.
Hein, par exemple,
un homme et une femme. Donc, auquel cas, la plupart du temps, si vous voulez, ça ne va pas chercher très loin. C'est pas très méchant, ces histoires de coïncidences. Mais dans certains cas, ça peut faire déraper nos vies vers le pire. Hein. Il y a des gens qui accordent un sens aux coïncidences. Et qui vont orienter leur vie, par exemple, en entrant dans une secte ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont eu l'impression
qu'on leur envoyait un signe, et là,
évidemment, les conséquences sont beaucoup plus graves.
D'ailleurs, il y a un scientifique anglais qui, ne pouvant pas réunir, évidemment, plusieurs personnes comme ça à chaque fois dans une salle précisément, a décidé de faire une étude statistique sur la base des anniversaires à travers les rencontres de matchs de foot, ce qui est une excellente idée, parce que les matchs de foot, il y a toujours 11 personnes d'un côté, 11 personnes de l'autre, ça fait 22, plus les remplaçants, etc. Et donc là, il a eu à chaque fois des coïncidences, entre guillemets, de date d'anniversaire dans les deux équipes adverses.
Bah absolument, oui, parce que il a compté l'arbitre Et précisément, ça fait donc 23 joueurs sur le terrain. Ouais. Et 23, c'est précisément le nombre à partir duquel on passe au-dessus de 50%.
Ouais.
Donc, il s'est dit, si la théorie des anniversaires est juste, on devrait obtenir sur une journée de championnat anglais, en fait, un certain nombre de matchs où, effectivement, les joueurs ont la même date d'anniversaire. Et c'est ce qui s'est produit, évidemment, très facilement, puisque vous savez que les mathématiques ne mentent pas et qu'elles sont, dans toutes les disciplines humaines, celles qui apportent le plus de prédictions certaines.
Ouais. Gérald Bronner, une première pause. On se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio pour explorer avec vous la loi des séries. Vous savez, ça c'est vraiment le genre de choses qui revient régulièrement dans la vie de tout un chacun, où on s'est dit, jamais 203 par exemple. Ça c'est le grand classique. Vous nous parlerez de qu'est-ce que l'effet râteau, que j'ai trouvé intéressant, et puis nous parlerons des miracles de Lourdes, qui selon vous, finalement rentrent dans un cadre de probabilité tout à fait acceptable. Alors, une pause et on se retrouve à tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, avec ce soir ouvert sous vos yeux le dossier des coïncidences et du hasard, avec mon invité Gérald Bronner, qui vient de publier aux éditions Vuibert « Coïncidences, nos représentations du hasard ». Gérald Bronner, on a commencé avec vous à défricher un petit peu ce dossier qui est passionnant, qui pose des questions extrêmement importantes dans le cadre de notre vie de tous les jours. On parlera tout à l'heure de ce que vous appelez le dessin intelligent, Darwin contre Dieu, de scientifiques qui parlent justement de dessin intelligent. Et puis, il y a un mouvement extrêmement dangereux qui est en train d'émerger aux États-Unis actuellement, les créationnistes, et ça, c'est là, on ne rigole plus, c'est quelque chose d'extrêmement grave auquel il faut être très attentif. Mais revenons à la loi des séries, avec ce qu'on appelle régulièrement la loi des emmerdements maximum. D'ailleurs, on en a parlé pour ce qui arrive au président de la République actuellement. Je me rappelle avoir entendu ou lu dans des journaux d'analyse politique, il dit « Ah ben Sarkozy, il est dans la loi des emmerdes maximum. Quand il y en a une qui arrive, il y a les autres qui déboulent systématiquement. » Alors qu'avez-vous à nous dire sur cette loi des séries ?
D'abord, si vous voulez, la loi des séries montre que les proverbes et la sagesse populaire peuvent se tromper. Quelquefois, on a intérêt à écouter les proverbes et la sagesse populaire, quelquefois pas. Et entre autres, la sagesse populaire nous dit, par exemple, jamais 203, etc.
Un
malheur n'arrive jamais seul, ou un bonheur
n'arrive.
Voilà. Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça peut déjà se discuter, mais c'est encore une autre question. En tout cas, ce que révèlent ces croyances, jamais 203, ou un bonheur n'arrive jamais seul, ou un malheur n'arrive jamais seul, etc., c'est effectivement une certaine représentation que nous avons du hasard, une fausse représentation. C'est-à-dire que nous croyons que le hasard, lorsqu'il produit des phénomènes, les produit de façon équitable et juste, et surtout, je dirais, équitablement répartie dans une période. Je m'explique. Supposons que vous demandiez, vous faites ce petit test à des personnes, prenons 12 dates réparties au hasard dans une année. De 365 jours. D'accord. On les répartit vraiment au hasard. À votre avis, quel est l'écart moyen qu'il y aura entre ces 12 dates ? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont penser qu'il y aura à peu près 30 jours entre ces 12 dates, puisqu'il y a 12 mois dans l'année.
Ouais.
Elles vont supposer que le hasard va faire une équi-répartition de ces dates, c'est-à-dire qu'il va mettre une période à peu près équivalente entre ces 12 dates.
Ouais.
C'est ce qui lui semblerait, à cette personne que vous interrogerez, juste pour le hasard. Si le hasard ne produit pas cela, eh bien, c'est pas tout à fait du hasard. Or, ces tests ont été faits, on peut faire ces tests, et les tests ont été faits sur 100 000 répartitions aléatoires, et on a en moyenne, non pas, donc 30 jours, si vous voulez, de distance entre les deux dates, mais 2,53 jours.
Ah oui, d'accord.
Donc, en fait, on a des effets de concentration. Le hasard ne produit pas forcément de l'hétérogène. Le hasard, c'est n'importe quoi. Donc, comme le hasard n'est pas, si vous voulez, lié à une loi, il n'équirépartit pas du tout les phénomènes. Cependant, nous n'arrivons pas à le concevoir. Alors, c'est ça, justement, le problème de la loi des séries. C'est que le hasard produit des phénomènes quelquefois de façon groupée, quelquefois de façon séparée, mais aussi assez souvent de façon groupée. Et dès que les phénomènes arrivent de façon groupée, nous avons l'impression que ce n'est plus du hasard. Donc, nous appelons ça une loi étrange que nous n'arrivons pas à expliquer, mais que nous appelons la loi des séries. Et c'est ça, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'on appelle l'effet râteau, le terme n'est pas de moi, c'est ce qu'on appelle l'effet râteau, c'est-à-dire cette tendance que nous avons à mettre un coup de râteau sur les phénomènes pour les répartir, si vous voulez, équitablement dans un temps donné, pour que ça ressemble plus au hasard. Voilà. La croyance à la loi des séries est tout simplement due à la mauvaise perception de ce que produit le hasard. C'est l'idée que le hasard serait hétérogène, alors qu'en réalité, il peut effectivement être hétérogène certaines fois et autres fois, au contraire, produire une suite d'événements extrêmement resserrés dans le temps. Et voilà. Bon, et puis il ne faut pas oublier une chose aussi, quelquefois, les événements se produisent les uns les autres. Il est normal, par exemple, d'avoir plus d'accidents d'avion à une période où le trafic va être fort, d'avoir plus d'accidents de voiture dans les périodes de vacances, par exemple, etc. Donc la loi des séries, si vous voulez, s'explique parfaitement par des arguments très rationnels.
Ouais. Vous vous rendez compte, si on intègre bien cela vraiment au fond de nous-mêmes, ça change radicalement la vision de ce qui nous arrive dans la vie. C'est-à-dire que ça peut gommer pour tout ou partie des sentiments de culpabilité, des sentiments d'avoir tout qui nous tombe sur la tête parce que on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Ça peut faire progresser énormément dans la vie de tous les jours, je veux dire, dans la perception de la vie de tous les jours.
Oui, je le crois. Ça peut faire progresser et en même temps, il faut avoir beaucoup de courage intellectuel pour accepter qu'un certain nombre de phénomènes soient le fait du hasard et non pas d'une intention. Parce que vous comprenez, quand un phénomène est le fait du hasard, vous ne pouvez pas négocier avec lui. S'il est le fait d'une intention, si vous pensez par exemple qu'une entité comme un dieu ou un esprit vous a puni parce que vous avez fait ceci ou cela et c'est pour ça qu'elle attire la malchance sur vous, alors vous pouvez toujours dire « bon bah à présent je me conduirai bien et comme ça j'espère que ma vie sera plus heureuse si vous voulez ». Donc c'est à la fois ces croyances constituent quand même des béquilles utiles et il faut avoir un peu de courage pour essayer de marcher tout seul sans béquilles. En fait, ce que propose ce livre, c'est aussi une forme de manuel d'hygiène mentale, si je puis dire, c'est-à-dire de faire sa déclaration d'indépendance mentale par rapport au fonctionnement habituel de notre esprit, ne pas être la dupe de soi-même d'une certaine façon. Parce que je crois qu'il ne s'agit pas de vouloir désenchanter le monde absolument, de vouloir que le monde soit purement rationnel, aléatoire, etc. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut appeler un chat et que tous ces phénomènes, même s'ils ne sont pas toujours très graves, ces phénomènes mentaux, constituent des formes d'aliénation mentale.
Oui, il faut faire sa déclaration d'indépendance mentale.
Je crois, oui.
Je retiens la phrase. Oui, j'aime beaucoup. Je la réutiliserai si vous permettez. Gérald Bronner, vous êtes penché sur les miracles de Lourdes. Nous sommes actuellement en pleine, évidemment, célébration du 150e anniversaire des apparitions mariales à Lourdes. Ouais, la première a eu lieu le 11 février 1858. Et s'en est suivi énormément, une soixantaine, un peu plus, de miracles reconnus par l'Église. Alors qu'avez-vous à nous dire sur ce dossier ô combien complexe ?
Mais écoutez, ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai pu en lire, je ne suis pas médecin moi-même, il y a 67 miraculés reconnus de Lourdes, la dernière, voilà, s'appelant Anna Santaniello, qui a été reconnue officiellement le 21 septembre 2005. Donc 67 miraculés, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est très peu en réalité. C'est très peu parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 150 ans que Lourdes, est constitué comme est considéré comme un lieu miraculeux. Qu'en moyenne, on sait qu'il y a 6 millions de pèlerins qui se déplacent, ce qui fait environ 900 millions de personnes. Alors même si on considère qu'il y a certaines personnes qui y reviennent, même si on considère que toutes les personnes qui y vont ne sont pas atteintes d'une maladie très grave qui pourrait faire d'eux des miraculés de Lourdes, toujours est-il que le nombre de miraculés, 67, est extrêmement maigre. Et il est maigre pour une raison simple, c'est que de ce point de vue, on ne peut pas accuser l'Église de produire des miracles à tour de bras.
C'est extrêmement difficile pour être reconnu miraculeux.
Absolument, il faut passer toute une série d'épreuves devant des médecins très sérieux, spécialisés, etc. Il y a même des maladies qui ne peuvent pas être considérées comme relevant du miracle, par exemple le cancer. Vous pouvez pas, si vous guérissez d'un cancer, vous ne pouvez pas être considéré comme un miraculé. Parce que la plupart du temps, cette maladie s'accompagne d'un accompagnement donc thérapeutique, physiothérapie, etc. Et on ne sait jamais si votre guérison, même si elle paraît miraculeuse, est le fait de la thérapie ou le fait, je ne sais pas moi, d'une aide divine. Donc en fait, il faut reconnaître au comité de Lourdes ceci, qu'ils sont extrêmement attentifs et à ne pas faire
donner
des
miracles. Donner le label miracle, oui, tout à fait.
Absolument, ils sont très attentifs à ça.
Voire même réticents.
Ils sont très réticents. Il y a 7000 dossiers qui ont été déposés, comme il y a 67 miracle attesté, ça fait moins d'1%, si vous voulez. Mmh. Sachant que avant les 7000 dossiers, il y a déjà eu une sorte de, comment dire, de pic qui a été fait. Oui. Alors, tout simplement, je me suis demandé qu'est-ce que ça signifiait. Parce que quand on lit le récit, en effet, de ces miraculés, il faut dire que la médecine actuelle ne peut pas expliquer ces guérisons. Notamment le dernier cas d'Anna Santaniello, il n'y a pas d'explication officielle à ma connaissance médicale, mais je ne suis pas médecin. Mais je crois que les médecins reconnaissent qu'il y existe des cas de guérison miraculeuse. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il existe des cas de guérison miraculeuse ailleurs qu'à Lourdes, et en particulier en milieu hospitalier? Eh bien, la réponse est oui. Il y a des guérisons miraculeuses partout en réalité, et en particulier en milieu hospitalier. On en connaît les pourcentages. Alors j'ai fait un peu des recherches pour savoir combien de cas de miracles comme ça, ou en tout cas de guérisons
ailleurs, enfin en milieu hospitalier, en tout cas.
Dans le milieu hospitalier, on va dire de guérisons inexpliquées par la science. Ouais. Et en réalité, quand on compare les chiffres, on s'aperçoit que Lourdes ne produit pas plus de guérisons miraculeuses que les milieux hospitaliers, même s'il est très difficile de comparer chiffre à chiffre. Disons qu'on a à peu près cette impression que qu'est-ce que prouve Lourdes et les miracles de Lourdes? Ça prouve une chose. Ça prouve qu'on ne sait encore pas tout, et que la science, et la médecine en particulier, a des progrès à faire. Mais si Dieu pointe son doigt en un endroit du monde, eh bien il le pointe pas plus souvent à Lourdes que dans les milieux hospitaliers. Voilà.
Étonnant.
Ben écoutez, étonnant ou pas.
Une mise en perspective intéressante, pour le moins.
Ben oui, je voudrais pas décevoir, disons, les croyants. En même temps, bon, peut-être que l'effet placebo joue un peu, je ne sais pas.
De toute façon, la foi n'a pas besoin de miracles, en principe. C'est ce que prône l'Église, en tout cas.
C'est ce que prône l'Église, en effet.
C'est pour ça qu'ils sont
aussi normalement, la foi n'est pas une négociation, si vous voulez. On n'a pas à donner de preuves, mais le problème, c'est que le croyant a besoin de preuves pour croire. Il a besoin d'arguments pour croire. Ouais. Il donne difficilement sa créance, si vous voulez, sans qu'on lui donne quelque chose en retour.
Mais alors, pour pousser votre raisonnement jusqu'au bout, parce que vous avez dû vous poser la question, ou peut-être pas, ces quelques cas de guérison miraculeuse, employons le terme par commodité, miraculeuse, que ce soit en milieu hospitalier ou à Lourdes ou dans un autre lieu d'une autre religion, pourquoi pas. À votre avis, ça s'explique comment? Vous dites, vous, de votre point de vue, eh ben, pour le moment, la science n'est pas capable de le faire, mais elle va trouver d'ici 10, 15, 20 ans, et elle va comprendre comment ce miracle, entre guillemets, a eu lieu. Ou vous envisagez, ou vous, sans y répondre, l'hypothèse d'autre chose, d'un dessin intelligent? Là, c'est une question plus personnelle, évidemment.
Oui, absolument. Je sans vouloir paraître, comment dire, unanime, j'aurais du mal à répondre à cette question, parce que tout simplement, je n'ai pas la réponse. Ce que je veux dire tout de même, c'est que comme à Lourdes, il y a des dizaines de millions de personnes qui se déplacent, il est normal que ce genre d'échantillon aussi large produise de l'extraordinaire, si vous voulez.
Statistiquement, c'est tout à fait jouable, quoi.
Voilà. Plus il y a un phénomène lorsqu'il est produit par des millions d'occurrences, eh bien, produira forcément des choses extraordinaires. Je vais vous en donner un exemple très simple. Si quelqu'un vous dit, c'est extraordinaire, j'ai tiré 50 fois pile de suite en jouant au jeu du pile ou face, sachant que la pièce n'est pas truquée. La seule question que vous devez lui poser, c'est combien de fois as-tu essayé? Si cette personne vous dit, j'ai essayé 3 millions de fois, eh bien, il n'y aura rien d'étonnant à ce qu'une fois, en effet, il ait tiré 50 fois de suite pile. Donc, en fait, l'extraordinaire est tout à fait compatible avec le probable. Ça dépend de la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est large, et c'est le cas à Lourdes, je le répète, il est possible que l'extraordinaire survienne sans faire appel au surnaturel. C'est ce que je crois. Maintenant, ça ne prouve pas du tout ce que je suis en train de dire, que le surnaturel n'existe pas. C'est pas la question. Je dis qu'un certain nombre de phénomènes peuvent s'expliquer par les lois des probabilités, et ces explications, si vous voulez, elles sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus parcimonieuses. Et je crois qu'un scientifique doit toujours préférer la parcimonie que l'exubérance conceptuelle. Et donc, en l'occurrence, bon, sur les guérisons miraculeuses, il y a très peu de travaux, en fait, sur les guérisons, disons, exceptionnelles de ce genre. Tout ce qu'on sait, c'est que dans un certain nombre de cas, elles sont précédées d'un choc viral, qui fait que vous avez des fortes fièvres. En fait, vous êtes atteint, par exemple, d'un cancer, et vous contractez un virus qui réactive votre système immunitaire. Qui fait que peut-être, c'est cela, cette réactivation, cette surréactivation de votre système immunitaire fait que vous opérez une rémission miraculeuse du cancer. Mais en fait, on sait très peu de choses là-dessus. Et puis, je le répète, je suis sociologue, je suis pas médecin, donc je sais pas, je veux pas vous produire une pièce. Ce que j'ai lu, disons, c'est qu'il y a quelques pistes qui vont dans ce sens-là.
Ouais. Gérald Bronner, une pause à nouveau et dans quelques instants, toujours avec vous, nous allons évoquer le dessin intelligent, parler de Darwin contre Dieu, parce que ça a l'air d'être un titre un petit peu ronflant et amusant, mais pas du tout. Il y a un vrai combat qui se livre aux États-Unis actuellement et faut que l'on pointe le doigt dessus pour en avoir tout à fait conscience. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Gérald Bronner est en ma compagnie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Il est l'auteur aux éditions Vuibert d'un livre tout à fait passionnant, intéressant, facile à lire, qui s'intitule « Coïncidence, nos représentations du hasard ». Et alors, juste une précision quand même, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Gérald Bronner, vous n'êtes plus maître de conférence en sociologie à la Sorbonne, mais vous avez pris du galon, on en a parlé pendant la pause publicitaire, et vous êtes astral. Strasbourg maintenant, hein?
Oui, voilà, je suis professeur à Strasbourg. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Oui, bon, enfin bon, voilà. C'était normal de rectifier le tir, bien entendu. Alors, Gérald Bronner, le dessin intelligent, c'est quoi? On en a parlé, on en a évoqué, c'est-à-dire que ça a du sens. C'est ça, en gros, hein?
Oui, en fait, il y a deux théories. Il y a la théorie du créationnisme et la théorie du dessin intelligent qui sont très proches. En réalité, le créationnisme, c'est très simple, c'est l'idée selon laquelle on explique l'apparition des êtres vivants sur Terre, des animaux, etc., en se référant à la Bible, et la Bible nous dit que les animaux ont été créés séparément par Dieu. Dieu a créé les hippopotames, même les ornithorynques, vous voyez, et les humains séparément. Voilà, donc ce ne sont pas les espèces qui se sont engendrées les unes les autres, conformément à la théorie darwinienne.
Voilà, et la Terre a été créée en 7 jours, etc.
Voilà, etc. Ça, c'est pour les créationnistes les plus durs. Alors, ça nous semble un peu surréaliste pour nous autres Européens, parce qu'on est dans des pays quand même très sécularisés. Même s'il existe encore des croyants, on ne croit plus littéralement à la Bible. Oui. Mais en revanche, aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a quand même que 30%, 26% même des gens très exactement, qui pensent que le darwinisme est une théorie juste. Et il y en a même 38% d'entre eux qui souhaiteraient que les thèses de Darwin ne soient plus enseignées dans les écoles. Donc le panorama est tout de même assez inquiétant. Songez, plus d'un Américain sur trois voudrait qu'on enseigne plutôt le dessin intelligent ou le créationnisme. Alors voilà, c'est d'ailleurs été, il y a eu des combats aux États-Unis pour cela, mais les combats ont toujours été gagnés, si je puis dire, par la science et par les darwiniens. Parce que l'enseignement du créationnisme dans les écoles publiques a été considéré comme anticonstitutionnel par la Cour suprême. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les créationnistes? Ils ont essayé d'inventer une autre théorie, en fait, qui est une théorie jumelle, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la théorie du créationnisme, qui s'appelle la théorie du dessin intelligent. Et qu'est-ce que dit cette théorie? Eh bien, elle dit grosso modo, la nature est trop bien faite. Regardez les animaux, ils sont très bien adaptés à leur environnement. Regardez, cet animal-là peut se camoufler, etc. Enfin, ce que l'on constate évidemment très facilement. La nature est merveilleuse, et donc comme la nature est merveilleuse, elle est forcément, elle a été planifiée, pensée par une entité supérieure. Cela ne peut pas être le produit du hasard, comme l'affirme Darwin. Vous voyez, c'est encore le problème du hasard qui est au centre de cette question. Or, évidemment, aux États-Unis, eh bien, ces instituts, disons, qui défendent le dessin intelligent, donc il y aurait un dessin intelligent dans la nature, ce serait donc pas le produit du hasard, sont des instituts qui récoltent des millions de dollars, où il y a un certain nombre de chercheurs, certaines renommées, disons, qui sont quand même minoritaires aux États-Unis. Il ne faut pas croire que les scientifiques états-uniens croient à la théorie du dessin intelligent.
Oui, encore heureux, heureusement.
Il faut bien distinguer l'opinion publique états-unienne qui est favorable au dessin intelligent et l'opinion des scientifiques états-uniens qui lui est très défavorable. Mais il y a quand même, disons, un carré de scientifiques qui défendent la position du dessin intelligent, qui produisent beaucoup de livres, etc., et qui sèment le doute d'une certaine façon. Pourquoi sèment-ils le doute dans l'opinion publique américaine? Eh bien, parce que leurs arguments sont pas plus facilement compréhensibles que ceux du darwinisme. Parce que le darwinisme se fonde en effet sur une conception, disons, aléatoire de la production de la nature, tandis que le dessin intelligent dit « il y a une intention derrière ». Or, je vais vous donner des chiffres que donnent les biologistes en général, et les évolutionnistes, ils disent tout simplement une chose. Ce que ne voit pas l'opinion publique, c'est que 99,9% des espèces qui ont existé un jour n'existent plus aujourd'hui.
Ouais.
Elles ont disparu par la sélection naturelle. Mmh. Donc ce que nous voyons, si vous voulez, c'est la copie qui est bien rédigée. Nous ne voyons pas la somme immense, la masse immense des papiers de brouillon qui ont été déchirés par la nature. Et comme nous ne voyons que la copie qui a été bien rédigée, nous trouvons que la nature est superbe, qu'elle est bien faite, que tout s'emboîte bien. Nous ne voyons pas qu'elle est encore une fois le produit d'un tâtonnement aléatoire qui a produit une masse de brouillon qui a disparu aujourd'hui, mais qui, si nous en prenions conscience, bah, nous ferait comprendre que ces phénomènes sont en fait produits par le hasard et non pas par un dessein intelligent.
Mmh.
Alors je voudrais dire quand même que nous nous moquons souvent des États-Uniens en disant oh, mais quand même ils sont naïfs, ils croient que c'est Dieu qui a créé la nature et tout ça, et nous autres en France nous croyons darwiniens. Or, j'ai mené avec mes étudiants de la Sorbonne à l'époque une étude, à mon avis intéressante, qui montre qu'en fait, en France, nous nous croyons darwiniens, mais nous ne sommes pas du tout darwiniens.
Ah bon ?
Quand on fait un certain nombre de petits tests, on s'aperçoit que les gens donnent naturellement des réponses plutôt lamarckiennes, si vous voulez, donc finalistes, qui sont très proches du dessin intelligent. Si je vous dis, par exemple, très rapidement, qu'on sait, parce que c'est un fait, que de plus en plus d'éléphantaux naissent sans leur défense. On a constaté récemment que les éléphantaux naissent de plus en plus sans leur défense d'ivoire. Mmh. Donc en fait, ils sont porteurs d'un gène qui prévient la formation de la défense.
Ouais.
Comment expliquez-vous cela ? Eh bien, la plupart des interviewés que j'ai pu contacter, des gens qui donc étaient titulaires d'un baccalauréat tous, et donc qui avaient entendu parler de la thèse de Darwin, disent « c'est parce que leur défense leur sert plus à rien ». Dans certains cas,
oui.
Ou dans le deuxième cas, ils disent, eh bien, c'est parce qu'il y a des braconniers, et donc comme les braconniers chassent les défenses d'ivoire, eh bien, la nature est bien faite, donc la nature fait que les défenses disparaissent pour prévenir le danger, si vous voulez, des braconniers.
Mm-hmm.
Et ils répondent, enfin, c'est Darwin, quoi. Or, ce n'est pas du tout ça, Darwin.
Je vous avoue que j'aurais répondu la première réponse, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus peut-être leurs défenses, et la nature fait que ça s'élimine petit à petit.
Eh bien, vous m'apportez alors un exemple tout à fait lumineux pour ce que je suis en train de vous dire. Donc vous allez tout à fait convaincu de ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez. Mais rassurez-vous, l'immense majorité des gens répond comme vous.
Bon.
Et je suis même en train de mener ces tests avec des professeurs de biologie, de SVT, dans le secondaire, qui dans 50% des cas se trompent. Alors ça c'est beaucoup plus inquiétant, parce que c'est quand même eux qui font les cours de biologie, si vous voulez, et qui sont censés éventuellement enseigner Darwin. Alors l'explication c'est tout simplement qu'en réalité, effectivement, les braconniers chassent les éléphants avec des défenses d'ivoire, donc ils vont tuer préférentiellement les éléphants qui ont des défenses d'ivoire et ne pas tuer ceux qui n'en ont pas, qui en sont dépourvus. Donc
logique.
Ceux qui sont porteurs du gène qui prévient la formation des défenses. De sorte que progressivement, ceux qui n'ont pas de défense vont pouvoir se reproduire beaucoup plus facilement.
D'accord.
Et que la population, l'espèce éléphant, va peu à peu changer.
Logique.
Ce n'est pas le gène qui se transforme, si vous voulez, c'est la population des géniteurs qui se transforme. Et ça, généralement, nous ne le voyons pas. Et nous attribuons à Darwin des thèses qui sont en fait finalistes, donc en fait métaphysiques, parce que si en effet la nature se modifie en fonction de l'environnement, ce serait tout à fait métaphysique, vous comprenez. Et bien, nous pensons naturellement que Darwin, c'est ça. Alors, aux États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus religieux, ils ne se réfèrent pas à Darwin, ils se réfèrent à la théorie du dessin intelligent.
Mmh. Une théorie du dessin intelligent qui n'est peut-être pas portée quand même, mais on en sent de larges influences dans les différents discours du président Bush lui-même, par exemple. Est-ce que vous sentez qu'il y a, là, pour élargir peut-être un peu plus le débat, et on reviendra aux coïncidences après, évidemment, est-ce que vous sentez là, en tant que sociologue, qu'il y a une réelle menace ? Un réel danger de retour en arrière.
Écoutez, c'est une question très difficile. Ça dépend de quel endroit du monde vous parlez. Je dirais qu'en Europe, je ne sens pas une réelle menace. Tout simplement parce que les Français, par exemple, enfin la France est un pays quand même assez sécularisé du point de vue religieux. Donc le catholicisme ou le protestantisme, enfin le christianisme, c'est surtout un pays catholique, la France d'origine, le catholicisme ne constitue pas une représentation du monde en France qui ait beaucoup d'autorité en tant que telle. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le pape lui-même a considéré que le darwinisme était une thèse acceptable. Et il condamne le créationnisme et le dessin intelligent. Donc si vous voulez, les catholiques qui respectent normalement la parole du pape ne devraient pas accéder à la théorie créationniste. En revanche, le danger vient plutôt, je crois, de l'islam sur ce point. parce qu'il y a, on le sait, il y a eu un livre notamment qui a été produit par un musulman turc qui dénonce les thèses darwiniennes et qui défend des thèses en fait très proches du créationnisme. Et il semblerait que ce soit parce que c'est une population qui est plus proche de sa religion que les catholiques ne le sont en France.
Oui, parce que plus jeune dans l'histoire.
Tout à fait. Et puis parce que bon, ils ont un rapport aujourd'hui, en tout cas, ils ont un rapport plus intime à leur religion que les catholiques ne l'ont en France. Alors il semblerait qu'on ait des populations qui, peu à peu, notamment chez les jeunes musulmans en France, qui soient assez disponibles aux théories créationnistes. Hein. Et d'ailleurs, Science et Vie a fait un numéro récent où j'étais interviewé sur cette question et j'ai pu lire donc d'autres interviews. Ouais. Et notamment, je crois, la rectrice de Paris qui disait que on trouvait dans les copies du baccalauréat de temps en temps des jeunes gens. Donc généralement musulmans qui écrivaient bon bah voilà la théorie de Darwin, je n'y crois pas mais je suis obligé à cause du baccalauréat de répondre comme ça, mais mes convictions vont dans ce sens, alors que ça n'arrivait pas il y a une dizaine d'années si vous voulez. Donc il y a une sorte de retour de flamme si je puis dire hein, du créationnisme chez certaines religions. Je pense que aux États-Unis effectivement très clairement les chrétiens sont, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai donné les chiffres, sont très proches du créationnisme ou du dessin intelligent hein. Simplement je ne pense pas que ça soit un danger pour l'Europe de la part des chrétiens, je dirais, mais on ne sait pas, dans 10 ans cela peut varier. Donc le grand danger si vous voulez, c'est que ces thèses sont plus attractives parce qu'elles sont plus facilement compréhensibles. Elle flatte, disons, certaines pentes de notre esprit et certaines représentations que nous avons du hasard. Et par conséquent, elles peuvent facilement gagner l'opinion publique.
Ouais. Donc, méfiance. Enfin, il faut vraiment être très attentif à ce qui se passe actuellement.
Oui, je crois que les scientifiques, de ce point de vue, parlent de façon très ferme. Le problème, c'est que nous sommes aussi dans une période où il y a quand même un peu un discrédit de la science. Hein. Nous nous méfions des scientifiques, du discours des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, etc. C'est le principe de précaution, par exemple, qui dit beaucoup de la méfiance que nous avons face aux innovations technologiques. Alors, ce discrédit de la science, relatif, hein, pour rien exagérer, mais enfin, il est tout de même présent dans l'imaginaire de l'opinion publique, pourrait bien rencontrer, un jour ou l'autre, des thèses de ce genre. Et là, évidemment, le mélange serait explosif. Mais franchement, nous n'en sommes pas là. Je voudrais pas avoir un discours trop catastrophique.
Oui. Non, mais qu'on soit bien conscient de la réalité de la situation. Ça,
tout
en revanche...
Tout à fait. Il faut démentir pied à pied ce genre de théorie lorsqu'elles essayent d'émerger sur la scène publique.
Tout à fait. Alors, il y a un passage dans votre livre où vous parlez de ce qui est arrivé à un certain docteur Armstrong, où là, pêle-mêle, vous nous faites rentrer de plein pied dans le monde de l'ufologie, très rapidement, l'ésotérisme. C'est-à-dire que lorsque, et je trouve que c'est bien résumé dans cette phrase, lorsqu'on est en quête de signes, ils finissent toujours par arriver. On finit toujours par les voir arriver.
Mais oui, absolument. Le docteur Armstrong a eu un destin un peu tragicomique, enfin surtout tragique à vrai dire. C'est quelqu'un de manifestement intelligent et qui finit par rentrer dans une secte avec sa femme, qui va le conduire à abandonner son métier, à se fâcher avec tous ses amis, etc. Et c'est une secte qui est millénariste, qui annonce la fin des temps, et quelques élus seront sauvés par des soucoupes volantes. On est dans les années 50, c'est très à la mode. La théorie des soucoupes volantes, l'existence donc de visiteurs extraterrestres. Il faut dire que ce qu'on ignore la plupart du temps sur les phénomènes sectaires, c'est que les gens qui participent aux phénomènes sectaires, les adeptes des sectes, sont loin d'être des idiots. Et sont loin d'être des gens fragiles psychologiquement, comme on le dit aussi assez souvent. Généralement, ce sont des gens qui ont un niveau d'études supérieur. Mais qui sont, et ça c'est vrai, c'est une caractéristique nécessaire, qui sont tout de même en quête d'un certain sens. Ils sont déçus par leur contemporanéité, alors ils vont chercher dans les doctrines indiennes, dans la scientologie, quelquefois dans le catholicisme, dans le protestantisme, des réponses que leurs études ne leur ont pas fournies, des réponses sur le sens du monde, et ils vont se mettre donc en quête d'un sens. Généralement, ils tâtonnent, alors ils vont aller dans toutes sortes de conférences, etc., et dans ces conférences, ils rencontreront, c'est le cas du docteur Armstrong, ou par exemple de Huguenin, qui a été un des survivants de la secte de l'ordre du Temple solaire, et qui le raconte très bien. Il dit que lui, il était en quête, c'est un prothésiste dentaire. Il n'est pas heureux de son travail, il a l'impression qu'il mérite mieux, il a une aspiration spirituelle qui n'a jamais plus contenté. Alors donc, il va dans des conférences, et un jour, quelqu'un, un conférencier, dit Je sens qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui a une aspiration spirituelle réelle et qui va bientôt rencontrer quelqu'un d'important. Évidemment, 100% des gens qui sont dans la salle se reconnaissent, hein, ça va de soi. C'est ce qu'on appelle des miroirs, si vous voulez. Hein. Ouais. Vous reconnaissez toujours quand vous êtes en quête dans ce genre de discours, donc il est très attentif. Et là, il prend la parole, il arrive à vaincre sa timidité, il prend la parole pour expliquer sa quête spirituelle et la personne lui dit « Ben, c'est vous, vous allez rencontrer bientôt quelqu'un de très charismatique et qui va vous guider spirituellement ». Et il prend ça comme un signe terrible. Et le problème, c'est que dans ce milieu, vous allez rencontrer plein de gens charismatiques qui vont vous offrir de vous guider spirituellement. C'est même la caractéristique des gens de ce milieu. Et là, malheureusement pour lui, évidemment, il tombe sur Dimambro, qui est le gourou de la secte de l'ordre du Temple solaire, et il va être quasiment l'esclave de Dimambro. Il va lui rendre toutes sortes de services, etc. Et tout cela parce qu'il aura mal interprété des signes, il aura considéré comme extraordinaire des signes, alors qu'en fait, si on y réfléchit un instant, ces signes sont simplement le fait du hasard, ils sont même très très probablement, ils surviennent de façon très probable dans ce genre de circonstances. Donc voilà, il y a un certain nombre de destins comme ça individuels qui deviennent tragiques, tout simplement parce que ces gens sont de bonne foi, qu'ils cherchent des signes et qu'encore une fois, effectivement, à chercher des signes, on finit toujours par en trouver parce que le réel offre une telle plasticité, si vous voulez, que vous pouvez, si vous êtes un peu attentif, si vous avez l'esprit bien incliné, trouver toutes sortes de petites lampes qui vont s'allumer et qui vont parler à votre esprit. Vous allez dire, voilà, tout à coup, ça y est, j'entre en dialogue, quelqu'un veut me dire quelque chose. Et comme vous avez attendu ça toute votre vie, vous trouveriez stupide de ne pas être attentif à ces signes.
Mais oui. Gérald Bronner, une pause et ensuite nous allons parler parce que il y a énormément d'autres choses dans votre livre, on va pas tout passer en revue, mais comme nous avons parlé dans cette même émission de psychokinèse il y a pas longtemps, vous citez Uri Geller très longuement, vous revenez sur ce cas et la télépathie. Donc ça nous intéresse, on va se pencher dessus et puis mettre la psychokinèse, la télépathie, à l'épreuve des probabilités, justement. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Gérald Bronner, qui est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant, bon pour l'esprit à lire, ça s'appelle « Coïncidence, nos représentations du hasard » aux éditions Vuibert. Je dis bon pour l'esprit, même et surtout si on s'intéresse à tout ce qui est phénomène paranormal, bien entendu. Il faut garder dans l'étude de ces phénomènes au moins son objectivité et beaucoup de sang-froid, pour ne pas finir par raconter n'importe quoi. Et vous nous parlez, Gérald Bronner, d'Uri Geller et de la psychokinèse.
Ben oui, Uri Geller, vous savez, dans les années 70 et même au début des années 80, était une sorte de vedette internationale, en fait un prestidigitateur, mais qui prétendait, qui trompait un peu son public, puisqu'il prétendait avoir de vrais pouvoirs, il prétendait pouvoir tordre la matière grâce à son esprit, et surtout, effectivement, produire toutes sortes de phénomènes chez les gens, et c'est là où c'était tout à fait spectaculaire. Il vous proposait, par exemple, par le biais d'une émission de radio ou d'une émission de télé, mais ça se passait plutôt à la radio à cette époque-là, par exemple d'éteindre des ampoules chez vous, de faire claquer des lampes. Alors il vous proposait d'allumer toutes les lampes de votre appartement ou de votre maison, ou bien de placer une vieille montre qui ne fonctionnait plus devant le poste de radio, ou bien au contraire une montre qui fonctionnait, et il allait, prétendait-il, tenter de l'arrêter par le pouvoir de son esprit. Alors évidemment, je me rappelle avoir été enfant à cette période-là et avoir été subjugué par les pouvoirs d'Uri Geller, et même je trouvais, pour vous dire la vérité, tout à fait saugrenu et franchement de mauvaise foi les personnes qui contestaient à Uri Geller ses pouvoirs. Oui. Et pourquoi je trouvais que ces personnes étaient de mauvaise foi? Tout simplement parce qu'à la suite de ces émissions, il y avait toujours des centaines, voire des milliers de personnes qui appelaient pour attester que le miracle s'était produit chez eux.
Une ampoule avait claqué, une
voilà, la montre s'était arrêtée, voire la montre avait redémarré, etc., etc. Et puis, eh bien, en grandissant, si je puis dire, voilà, je suis devenu adulte, je suis devenu un peu plus grand, j'ai fait ma déclaration d'indépendance mentale qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Et puis, j'ai lu un certain nombre d'auteurs, évidemment, qui ont beaucoup travaillé sur Uri Geller, et je me suis aperçu d'une chose, eh bien, c'est que le phénomène Uri Geller était encore une fois lié à ce que j'appelle dans le livre la négligence de la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs de ces émissions de Uri Geller, et qu'un simple calcul de probabilité, si vous voulez, même approximatif, par exemple, si on prend l'exemple des lampes, supposons, disons qu'une ampoule doit être changée à peu près tous les ans. Bon, j'ai pas demandé à un électricien, mais admettons, c'est une hypothèse. La seule question que nous devons nous poser alors est quelle est la probabilité de chance pour que l'ampoule claque précisément au moment de l'émission, bien entendu. Supposons que l'émission dure une heure. Il y a donc en fait, si on calcule, une chance sur 8760, ce qui est faible, qu'elle claque pendant l'émission. Donc la probabilité de chance est assez faible, une chance sur 8760. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission. Et comme il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission, eh bien, il est normal qu'il y ait des milliers de personnes chez qui le miracle surviendra. Sauf que si vous dites à cette personne, mais c'est le hasard en fait qui a fait que ton ampoule a claqué pendant l'émission où Uri Geller s'est concentré, eh bien, elle va pas vous croire. Elle va trouver que vous êtes de mauvaise foi. Parce que elle, intuitivement, elle sentira bien que les probabilités de chance sont très faibles. Et le pire, c'est qu'elle aura raison. Les probabilités de chance sont très faibles en particulier, mais elles sont très fortes en général. Vous voyez, c'est une confusion entre le particulier et le général qui leste ce raisonnement et qui fait croire aux personnes qu'elles ont vécu quelque chose d'extraordinaire, ce qui est vrai, mais quelque chose de totalement improbable, ce qui est faux. Parce qu'elles ne voient pas la taille de l'échantillon duquel est issue l'expérience auquel elles ont été confrontées.
D'accord.
Alors, il n'y a même pas besoin d'être confronté soi-même à l'expérience pour y croire. Il suffit d'être le témoin de tous ceux qui ont été confrontés à cette expérience. Si vous voulez, si vous faites une émission de télévision demain sur ce phénomène, vous obtiendrez facilement des dizaines, voire des centaines de témoins. Et des témoins de bonne foi, pas des gens qui sont atteints d'une psychose collective ou je ne sais quoi,
des gens qui ont vraiment vu
l'événement survenir, simplement qui ont été la victime de la production du hasard et surtout la victime de quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de notre esprit, puisque Uri Geller était quand même quelqu'un d'assez brillant de ce point de vue, mais c'était un farceur, si je puis dire. Mais il pratiquait une magie qu'on appelle le mentalisme, qui n'a pas besoin de dextérité manuelle, qui compte simplement sur le fonctionnement habituel de notre esprit et sur le fait que nous percevions très mal les phénomènes aléatoires.
Dites-moi, Gérald Bronner, est-ce que cela signifie que l'on doit jeter le phénomène de psychokinèse à la poubelle?
Ah ben écoutez, ça, je n'en sais rien encore une fois, ce sont à ceux qui font des travaux sérieux sur la question de le prouver.
Tout à fait.
À ma connaissance, le phénomène de psychokinèse n'a jamais été démontré. Je vous rappelle que, notamment à Nice Antipolis, Henri Brock, le physicien Henri Brock, avait proposé un prix d'un million de francs, je crois, pour à toute personne, qui donnerait à toute personne qui serait capable de faire la démonstration d'un pouvoir paranormal, quel qu'il soit, donc par exemple la psychokinèse, et qu'à ma connaissance, personne n'a pu, dans des conditions expérimentales, faire cette démonstration. Cela ne prouve pas dans l'absolu que ça n'existe pas, évidemment, mais cela affaiblit beaucoup les prétentions de ceux qui disent qu'on trouve facilement ce genre de phénomène dans la nature.
Ah non, qu'on le trouve facilement, ça je suis d'accord avec vous. Mais quand même, si je puis me permettre, pour votre culture personnelle, de vous renvoyer peut-être aux expériences de Jean-Pierre Girard, dans le cadre de la psychokinèse, des expériences réalisées dans le laboratoire de Péchiné, début des années 80, je crois, avec des résultats extrêmement intéressants sous le contrôle de scientifiques, avec des protocoles expérimentaux très rigoureux. Juste pour votre culture personnelle, vous verrez, il y a des résultats étonnants.
En effet, je connais pas du tout ces expérimentations, donc je suppose qu'elles doivent être passionnantes. Il faudrait jeter un coup d'œil, il faudrait bien s'assurer que les protocoles ont été sérieux, qu'il y avait par exemple un précipitateur sur place, parce que les scientifiques
se font
souvent dupés, vous savez, ils ne sont pas spécialistes de ce genre de questions.
Il y avait un voire deux prestidigitateurs sur place à chaque expérience.
Mais pour vous dire la vérité, j'espère que ces phénomènes existent, voyez. Je trouve que ça rendrait le monde beaucoup plus étrange, beaucoup plus intrigant. Donc je n'ai pas de fermeture dogmatique par rapport à ces phénomènes. Simplement, j'essaye de faire en sorte que mon désir ne contamine pas ma croyance.
Je crois qu'il faut
tout simplement pas être le dupe de soi-même.
Nous sommes d'accord, effectivement. Et alors, pareil pour la télépathie. Vous dites que la télépathie se produit, si on en croit les probabilités, régulièrement, et c'est normal.
Ce qu'on appelle
la télépathie, évidemment.
Ce que je dis de la télépathie ne prouve pas que le phénomène télépathique n'existe pas dans l'absolu. Je dis simplement que nous prenons souvent des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire des phénomènes qui sont simplement le produit du hasard pour des phénomènes télépathiques. Par ailleurs, nous pouvons nous faire duper, là aussi, très facilement. Je veux dire, vous pouvez très facilement faire croire qu'un de vos amis possède des pouvoirs télépathiques. Il suffit, dans un dîner, de dire, videz vos poches, vous allez... Euh, vous nous allons téléphoner à un de mes amis. Alors vous ne participez pas, vous demandez à un ami qui n'est pas complice de choisir un objet dans une poche, par exemple un mouchoir, une pièce, peu importe. Vous ne choisissez pas. Et vous dites, tenez, appelez cet ami, demandez à parler à Eric, par exemple. Et vous appelez Eric, bonjour, je voudrais parler à Eric, oui, bonjour, voilà. Et vous faites l'expérience et vous dites, c'est un mouchoir qui est devant vous. Et vous avez l'impression extraordinaire qu'en effet, il y a quelque chose d'une télépathie qui s'est produit. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est un trucage. Parce que si ça avait été une pièce, moi je vous aurais dit demandez à parler à Stéphane. Si ça avait été un stylo vert, je vous aurais dit demandez à parler à Jean-Marc, etc., etc. Mmh. Chaque prénom correspondant, si vous voulez, étant un code et correspondant à un objet particulier, j'aurais, par votre truchement, fait passer un message à mon collaborateur, si je puis dire, et qui vous aura fait croire que c'est une expérience de télépathie.
Oui.
Et vous voyez, il y a toutes sortes de trucages qui sont possibles. Bon, là, on est dans l'amusement, bien entendu. Mais de la même façon, nous pouvons être dans la vie de tous les jours, les dupes de coïncidences. Nous prenons ça pour des choses extraordinaires. Je pensais à la même chose que toi au même moment, par exemple.
Oui, bien sûr.
Et le problème, c'est que la plupart du temps, je ne pense pas à la même chose que toi au même moment. Mais de temps en temps, il est normal que je puisse penser à la même chose que toi au même moment. Simplement,
parce que
je ne vais retenir que les cas où, effectivement, il y aura une convergence de pensée. Je vais trouver ça extraordinaire parce que ça l'est, effectivement, c'est assez improbable. Sauf qu'encore une fois, j'oublierai tous les brouillons, le nombre incroyable, immense de cas où je n'ai pas pensé la même chose que toi, pour ne retenir que les cas qui sont des succès de la télépathie, si vous voulez.
De sorte
que je vais complètement brouiller la loi des probabilités et je vais trouver extraordinaire quelque chose qui est simplement normal.
Comme quoi, il est extrêmement important d'être rigoureux lorsqu'on s'intéresse, lorsque l'on veut étudier des phénomènes dits paranormaux, c'est-à-dire qui sont encore pas dans le science, dans le sentier de la science, dans le.
Absolument, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Je dirais premièrement.
Dans le champ de la science, voilà. Excusez-moi, je cherchais mon expression.
Il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Premièrement, toujours considérer la taille de l'échantillon duquel est issu l'occurrence que vous examinez.
Oui. Mmh.
Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, si vous présentez sur un plateau de télé quelqu'un qui a pu deviner 50 fois de suite. En condition expérimentale avec un huissier, un jeu de pile ou face, qu'est-ce qui allait sortir?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est combien de personnes vous avez interrogées?
Voilà, tout à fait.
Si vous avez fait votre test avec 50 000 personnes, il est tout à fait normal qu'une personne. Voilà. Et c'est, d'ailleurs, cette personne-là sera incapable de reproduire son exploit. Alors, l'explication qu'on vous donne généralement, c'est que ce sont des choses qui sont pas mécaniques, on peut pas. Mais non. La vraie explication, c'est que c'était le hasard, quoi. Donc, tenir compte de la taille de l'échantillon. Deuxièmement, ne pas oublier que le hasard n'est pas forcément hétérogène dans ses productions.
Tout
et troisièmement, que le hasard n'est pas forcément juste dans ses productions, parce que ça dépend, là aussi, de la taille du nombre d'occurrences que vous considérez. Sur 6 occurrences, le hasard ne va pas forcément répartir 3-3 dans un jeu de pile ou face, si vous voulez.
Ouais.
Sur 1000 occurrences, oui, il y aura à peu près 500-500. Mais pas sur 10 occurrences. Le hasard peut produire des choses extrêmement étranges et pourtant c'est quand même le hasard.
Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on a envie de se pencher sur l'étude de ces phénomènes qui ne sont pas encore dans le champ de la science et être extrêmement objectif, avoir un excellent statisticien sous la main parce que ça c'est très important.
Absolument.
Et puis avoir des protocoles expérimentaux rigoureux mais tout en restant ouvert d'esprit puisqu'après tout la nature nous réserve encore pas mal de surprises.
Espérons-le, ce serait désespérant de croire le contraire. Non, je pense que ce qui caractérise normalement l'esprit d'un scientifique, c'est qu'il est rigoureux et ouvert. Voilà, mais rigoureux aussi.
Oui, tout à fait. Et alors, juste pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes, Elisabeth Tessier n'est pas quelqu'un que vous élèverez au pinacle ou vous ne lui accorderez pas forcément un doctorat si vous faisiez partie du jury.
Oui, enfin ça c'est c'est une autre question. Ce que je conteste à Elisabeth Tessier, en tout cas, c'est la capacité de prédire l'avenir, puisque c'est ce qu'elle revendique. Elle revendique grâce à l'astrologie de pouvoir prédire l'avenir. Et là aussi, on retombe exactement dans le même mécanisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'Elisabeth Tessier tous les ans produit un livre de prédictions où il y a des centaines de prédictions. Et l'année d'après, elle se glorifie qu'une ou deux de ces prédictions, ou deux ou trois, tombent à peu près justes. Mais je dirais, je citerai Voltaire, qui résume très bien les choses, les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours. S'ils se trompaient toujours, ce serait vraiment très étonnant. Et là, je serais prêt à leur accorder des pouvoirs paradoxaux, ça servirait pas à grand-chose de se tromper toujours, mais ce serait étonnant.
Oui.
Il est normal, si vous voulez, que quand on essaie de faire des prédictions par hasard, on tombe juste. Et d'ailleurs, pour finir sur ce point, je dirais que tous les ans au Canada, il y a des gens qui défient les astrologues, les meilleurs astrologues du pays. Alors ils font des concours de prédiction, sauf que ces personnes, elles font leurs prédictions en jouant aux fléchettes. Alors la première cible indique le lieu, la deuxième la date, et la troisième ce qui va se passer, par exemple un tremblement de terre, etc.
D'accord.
Eh bien, bah, bien entendu, c'est pour se moquer un peu du pouvoir des astrologues, et sauf que chaque année, ils arrivent à égalité. Hein, ils obtiennent exactement le même taux de prédiction, parce que eux, de temps en temps aussi, arrivent à avoir des prédictions justes, ce qui prouve tout simplement qu'en tirant au hasard, on touche de temps en temps des cibles. C'est bien normal.
Ouais. En tout cas, Gérald Brunner, j'ai passé une délicieuse heure en votre compagnie, vraiment.
Merci.
Et c'est agréable d'avoir un scientifique de votre niveau qui a un discours en même temps simple et vulgarisateur, sans tomber dans le piège du simplisme. Voilà, ça c'est donc très précieux. Et je rappelle le titre de votre livre, on le retrouvera sur notre site avec toutes ses coordonnées, bien entendu. Donc, Coïncidence, nos représentations du hasard, aux éditions Vuibert. Avant de vous lâcher, Gérald Brunner, sur quoi travaillez-vous? Avez-vous l'intention de poursuivre comme ça dans des directions vulgarisatrices?
Oui,
en termes d'édition, je veux dire.
J'essaye j'alterne des textes assez exigeants pour le lecteur avec des textes de ce type, coïncidence, qui le sont moins, mais qui sont tout de même rigoureux dans l'argumentation, ce que j'espère. À l'heure actuelle, pour répondre clairement à votre question, je suis en train de travailler sur la pensée extrême, le fanatisme, la radicalité et le fondamentalisme. Ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. Parce qu'ils sont des situations très énigmatiques.
Et puis, ces temps-ci, en plein dans l'actualité, en plus.
Absolument d'actualité, justement. Comment est-ce que notre contemporanéité, assez rationaliste, si je puis dire, enfante des pensées assez paradoxales, extrêmes, qui sont portées par des gens qui ont souvent un haut niveau d'études. C'est ce qui est très intéressant.
Ouais. Merci beaucoup, Gérald Brunner, en tout cas, et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'Étrange, pourquoi pas. Bonne soirée.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Les Aventuriers de l'Étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.